Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter contre l'apatridie en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec l'honorable Simon-Pierre Iyanano. Il est président de la commission droits de l'homme du Parlement. Honorable Simon-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Christian Makambo, chargé des opérations et protection au comité technique des luttes contre l'apatridie. Monsieur Christian Makambo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission
Capi Service.
Vous avez des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94 pour vous enregistrer et puis nous allons vous rappeler pour participer à cette émission. Dans la deuxième partie de ce programme, comment prévenir les maladies des yeux, nous allons en parler à partir des 11h05, heure de Kinshasa. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Il est assisté, il travaille ensemble avec Céleste Massoudi au micro. C'est Jody Daniel Kajama à la technique, Jean-Noël Mokondo. Bienvenue à tous.
Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos...
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Ils sont autour des 10 millions dans le monde, ces personnes qui vivent sans aucune nationalité. Un phénomène aux conséquences incalculables, selon les experts. Ces victimes souffrent des multiples privations et du manque de dignité liées au fait de se voir refuser une nationalité. À ces sujets, les États membres des Nations Unies ont pris en 2013 l'engagement d'éradiquer ce phénomène d'ici 2024. Précisons que la RDC avait pris 11 engagements dans le cadre de la lutte contre l'apatridie, parmi lesquels la mise en place d'un cadre légal. Alors que faire pour impliquer le Parlement dans la lutte contre l'apatridie? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons dans ce studio l'honorable Iyanano Moligi Simon-Pierre. Il est député national, président de la commission droits de l'homme du Parlement. Honorable, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également dans ce studio Monsieur Christian Makambo, chargé des opérations et protection au comité technique de lutte contre l'apatridie. Monsieur Christian, bonjour.
Bonjour.
D'abord, c'est quoi l'apatridie?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. L'apatridie est la situation d'une personne qui n'a pas de nationalité. Aujourd'hui, je vais y aller de manière simple. Une personne à qui aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. Et des personnes pareilles existent. C'est vraiment une réalité, l'apatridie. Au monde, comme vous l'avez bien souligné, il existe plus de 10 millions de personnes dans la situation d'apatridie, dont 1 million en Afrique. Et la RDC n'est pas épargnée du tout par ces phénomènes.
Bien qu'on ne connaisse pas le nombre exact en RDC, mais ces personnes sont là.
Ces personnes sont évidemment là. Les statistiques indiquent notamment que plus de 8 millions d'enfants, je prends le cas d'enfants, qui n'existent pas juridiquement, qui n'ont pas d'acte d'état civil, d'acte de naissance. Or, quand une personne n'a pas d'acte de naissance, elle est à risque d'apatridie. L'apatridie résulte notamment de mauvaises articulations de lois sur la nationalité. Je vais m'appuyer sur la loi de 2004 sur la nationalité congolaise, dont l'article 7, si vous le souhaitez, je peux vous en donner lecture. Pour que les auditeurs de la radio Capi comprennent que l'apatridie, c'est vraiment une situation qui écume déjà la République démocratique du Congo. Que dit cet article?
L'article 7 de la Constitution.
Non, de la loi. De la loi du 12 novembre 2004,
okay,
relative à la nationalité congolaise. Est congolais dès la naissance. L'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est congolais. Ce qui est intéressant, c'est l'alinéa 2. La filiation de l'enfant n'a de fait sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise. Ça veut dire que une naissance qui n'est pas enregistrée pendant la minorité de l'enfant, parce que la filiation n'est établie par l'enregistrement des naissances à l'état civil. Cette filiation n'aura pas d'effet sur la nationalité congolaise. Prenons maintenant le cas de la RDC. Combien de Congolais sont enregistrés à l'état civil pendant leur minorité? Combien d'enfants sont enregistrés à l'état civil pendant leur minorité? N'est-ce pas que vous allez vous rendre compte que les Congolais recourent aux actes de l'état civil de manière opportuniste? Généralement, ils sont déjà majeurs.
Bien sûr. Il y a eu plusieurs campagnes, mais les parents n'enregistrent pas.
N'enregistrent toujours pas. C'est quand il y a une opportunité en Europe que les documents est exigé à l'université, qu'ils recourent au jugement supplétif. Qu'ils sachent que la filiation qui est établie à travers ce jugement supplétif n'a aucune incidence sur la nationalité congolaise. Ça veut dire que du fait de notre propre loi, ces gens-là sont des apatrides à proprement parler. Mais seulement, ils ne sont pas encore identifiés. Là, j'ai épinglé une des causes de l'apatridie.
Mais il y en a d'autres. Ça veut dire que le cadre, la loi déjà prédispose ou crée déjà une brèche.
Absolument.
Met déjà certaines personnes dans cette situation-là.
La loi congolaise sur la nationalité ne garantit pas les droits à la nationalité pour tous. Alors que la nationalité est un droit humain fondamental.
D'accord. Honorable professeur Yanna Niomoligui, Simon-Pierre, vous êtes député national, vous êtes président de la commission droits de l'homme du Parlement congolais. Quelle est votre réaction par rapport à cette question de l'apatridie?
Ben, merci beaucoup, monsieur Jody. Je commence par saluer aussi tous les auditeurs, spécialement mes électeurs de Chabunda. Je suis l'élu de Chabunda, dans le sud de Kivu.
Le grand territoire de Chabunda.
Le grand territoire de Chabunda. Au fait, l'importance de cette émission ici, c'est pourquoi je remercie tous les partenaires qui ont associé l'Assemblée nationale à travers la Commission droits de l'homme. Vous savez, dans ce pays ici, nous vivons des situations dramatiques. Mais on en a tellement vécu des drames que ça devient normal. Il y a des situations inhumaines que pour nous, bon, on commence à s'habituer à ça. Il y a une situation générale des gens, comme vient de le dire notre ami du comité technique, qui pensent qu'ils sont congolais, alors qu'en réalité,
ils ne le sont pas.
Et il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Et c'est pour ça que lié à cette question de la nationalité, de la patrie, des réfugiés, c'est une question de droit dans l'ensemble. Et à l'Assemblée nationale, pour cette législature, nous avons pris la résolution de créer toute une commission permanente qui va s'occuper des questions des droits de l'homme. Là, nous entendons les droits civils, droits politiques, droits sociaux, droits collectifs, parce que tout est après tout un problème des droits. Est-ce que ceux qui sont ignorants du fait qu'ils ne sont pas congolais, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le savoir? Il faut qu'on les aide à savoir
Mais
ça.
Mais honorable, vous savez que la question de la nationalité est une question sensible.
Mais évidemment.
Dans notre pays.
Mais nous sommes des responsables. Dieu nous a donné ce pays pour que nous puissions les gérer. Et nous ne pouvons pas faire semblant. Non, nous devons affronter les problèmes sur le plan juridique et sur le plan politique. Je sais que la question est là, mais je vous donne un exemple, je disais ça ici. À cause du fait que, en 2006, nous avons pris la loi disant que la carte d'électeur va faire office aussi de la carte d'identité, je vous dis qu'il y a beaucoup de gens étrangers.
Des étrangers qui se sont enrôlés.
Et tout d'un coup, ils pensent qu'ils sont devenus congolais, ces gens-là.
Oui.
Ben, nous, comme peuple, mais on doit affronter cette question. Pourquoi nous pensons qu'il ne faut pas l'aborder? Non. Et je voudrais ici féliciter mes collègues députés, parce qu'à l'Assemblée nationale, en créant la commission droits de l'homme, nous voulons que cette question-là, et liée à ça aussi toutes les autres questions de droit, ne soit plus saupoudrée. Parce qu'avant, c'était la commission politique et administrative qui s'occupait de ça. Nous voulons avoir une commission permanente des droits de l'homme et que nous puissions accompagner, nous comme législateurs, la politique nationale. Il faut qu'on définisse donc une politique. Comment nous gérons les apatrides? Et c'est pour ça que il y a une dynamique maintenant pour dire commençons par voir les conventions au niveau international. Ces questions ont été traitées dans d'autres pays. Et les Nations Unies ont finalement mis en place une première convention en 54 et puis une deuxième en 61. Et malheureusement, notre pays n'a jamais adhéré à ces deux conventions-là. Bon, sur le plan législatif, ça c'est notre travail, nous comme élus. Mais nous voulons aussi que le peuple comprenne de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de dire on va donner la nationalité à tout le monde. Non,
ça sert à rien. Il faut d'abord expliquer les gens qui comprennent.
Nous devons savoir qui est ici sur le territoire, il a quel statut. Vous êtes réfugié, on vous identifie, vous êtes réfugié. Vous êtes apatride, qu'on vous identifie aussi comme apatride. Et celui qui est congolais, qu'on l'identifie comme congolais. Tout le monde ne peut pas être congolais de fait seulement. Il faut aussi qu'il soit de jure, comme on dit, de par la loi.
Et honorable, comment on acquiert la nationalité? Parce que ça, c'est une question importante.
Ben, l'ami a fait référence à la loi de 2004. C'est cette loi-là qui définit, en fait, le mécanisme. Le principal mécanisme, c'est être né de père ou de mère congolais. Et on obtient la nationalité de par ses parents. Et c'est pour ça qu'on insiste pour qu'à la naissance, tous les enfants soient enregistrés. Nous sommes en train de travailler maintenant avec nos amis des ACR et l'UNICEF surtout, pour voir si on peut informatiser les systèmes d'enregistrement des enfants.
Cela veut dire que celui qui est né de père congolais et de mère étrangère n'est pas congolais?
Non, il peut le devenir. Tu peux être de par ton père, de par ta mère. Mais la question c'est, il faut être enregistré. Et l'article 7 de cette loi de 2004 dit justement, vous avez à le faire avant 18 ans. Quelqu'un qui passe 18 ans sans avoir été enregistré, il devient apatride de fait. Et il peut croire qu'il est congolais, mais en fait, il ne l'est pas.
Alors, M. Christian, pourquoi vous comptez impliquer les parlementaires dans cette lutte contre l'apatridie?
Oh, merci. On compte vraiment les impliquer davantage parce que la lutte contre l'apatridie, son éradication en RDC, fait partie des engagements que la RDC a pris au niveau global.
Il y en a 11 au total.
Il y en a 11.
C'est beaucoup.
C'est vraiment beaucoup. Alors, il ne suffit pas de prendre des engagements. Encore faudrait-il les mettre en œuvre. Voyez-vous, l'engagement le plus important actuellement est d'adhérer aux conventions sur l'apatridie. Il y a deux conventions. L'honorable vient de l'évoquer. Il y a la convention 1954 relative au statut d'apatride et celle de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Ces deux conventions constituent le régime international de protection et de réduction des cas d'apatridie. Voyez-vous, l'autre engagement consiste pour la RDC à rédiger et adopter, à valider le plan national de lutte contre l'apatridie en RDC. C'est ce plan qui va programmer de manière ordonnée.
Ce plan existe déjà, est déjà élaboré.
Non, actuellement, les plans n'existent qu'en draft. C'est la raison pour laquelle on va certainement revenir là-dessus. Le comité a conceptualisé et organise, en collaboration avec la Commission des droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Bureau de liaison avec le Parlement de la CENCO, un atelier historique, un atelier d'information et d'appropriation politique de la lutte contre l'apatridie en RDC, qui aura lieu du 19 au 20 octobre à la salle des banquiers du Parlement. Au cours de cet atelier, les parlementaires seront briefés, vont s'imprégner davantage des questions d'apatridie, du mécanisme de prévention de l'apatridie. Et une fois informés, ils vont définir le rôle qui sera le leur de l'accompagnement de la RDC, dans l'accompagnement du comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie pour vaincre ces fléaux. Parce que, au-delà de l'adhésion, comme je l'ai dit tantôt, le cadre législatif congolais sous la nationalité comporte de germes d'apatridie. Or, pour les réformer, il faut forcément l'implication des députés nationaux. C'est la raison pour laquelle cet atelier, c'est vraiment leur atelier. Ils doivent s'informer davantage. Ils doivent faire voir au gouvernement que la question des nationalités, bien qu'étant une question sensible, doit être abordée de manière frontale. Parce que beaucoup de gens estiment légitimement être congolais. Mais est-ce qu'ils le sont? La question des nationalités, c'est vrai, c'est une question sociologique, mais c'est aussi et essentiellement une question juridique. La nationalité est attributive et non déclarative. Il ne suffit pas de déclarer que vous êtes congolais pour l'être. Encore faudrait-il, faut être en mesure de prouver. L'article 42 de la loi, la loi de 2004, dit précisément ceci. La nationalité congolaise, d'acquisition comme d'origine, ne peut être établie ou prouvée que par la production du certificat de nationalité, régulièrement délivré par le ministre de la Justice. Combien de Congolais on dispose? Combien de Congolais on dispose?
Et pourtant, on a toujours conseillé aux parents, après la naissance de votre enfant, il faut directement le faire enregistrer à l'état civil.
On crie sur tous les toits de la RDC qui font enregistrer les enfants en l'état civil. Avant la révision du code de la famille qui est intervenue en 2016, le délai légal était de 30 jours. Après la révision, on a rallongé ce délai à 90 jours. Mais les parents n'enregistrent toujours pas. Qu'ils savent que l'enregistrement à l'état civil est un droit humain fondamental pour les enfants. L'article 14 permettait, monsieur le journaliste, de la loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009, dit que tout enfant a droit à l'identité dès sa naissance. Et les conventions et instruments internationaux de protection des droits de l'enfant insistent pour parler de l'immédiateté de l'enregistrement des naissances à l'état civil. Parce que de la naissance à l'état civil résulte l'identité juridique. De la naissance à l'état civil, un état prend acte de l'existence d'un enfant.
D'accord, un instant, on va accueillir des auditeurs qui vous suivent et qui sont intéressés par cette question. Comment lutter contre l'apatridie en République démocratique du Congo? Vous voulez participer à cette émission, composez le 081 890 63 94.
Dédicace.
Safari, vous êtes à Iga Barrière et Malonga nous appelle de Bandundouville. Safari, bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour aussi aux invités qui sont là.
Quelle est votre question, Safari?
Oui, d'accord. Je disais, il y a seulement des cas d'apatrie, on dirait chez nous, car la situation d'un enfant qui n'est pas enregistré, pourtant, son papa et sa mère sont bel et bien des Congolais. Est-ce qu'on peut appeler aussi ce type d'enfant un apatride? Et puis, un enfant dont le papa et la maman sont bien des étrangers, ils ne sont pas des Congolais, mais l'enfant est né sur le sol congolais. Est-ce que lui, il a le droit d'avoir la nationalité congolaise pourvu qu'il ne soit pas appelé un apatride? Voilà ma question et bonne journée.
Bien, merci. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour à nos invités qui sont là-bas et à tous ceux qui nous suivent.
On vous écoute.
Ok, merci. En tout cas, si j'ai la mémoire, nous avions encore traité ce sujet. Et je crois que c'était flou, selon moi.
Bon, suivant les maintenant, c'est clair. Qui nous invitent.
Oui.
Maintenant, c'est clair.
Oui, en tout cas, c'est clair, mais ce n'est pas tout à fait. Peut-être jusqu'à la fin, on va éclaircir.
D'accord.
Bon, ce que nos invités viennent de dire là-bas, je dis, en tout cas, je vois que c'est tout le monde qui sont apatrides.
Pourquoi tout le monde?
Si on dit que quelqu'un qui n'est pas passé à l'enregistrement lors de sa naissance...
À l'état civil, oui.
À l'état civil. Donc, il est apatride. Bon, vous-même, vous nous avez défendu là. Beaucoup de parents sont négligents. Et puis, notre État aussi n'est pas vraiment veillant pour ouvrir ces centres à chaque agglomération, puisqu'il y a ceux qui sont ignorants. Ils peuvent être servis par ces services-là. Raison pour laquelle il y a d'autres enfants qui sont nés dans la forêt là-bas. Bon, comment est-ce qu'ils peuvent être enregistrés? Bon, je vois qu'à partir de... Ou bien la date de naissance, ce n'est pas le fait d'être écrit que tu as perdu la nationalité.
Alors, bon, quelle est la question que vous adressez aux invités?
Bon, la question est celle-ci. Si quelqu'un réellement, moi, je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut être sans nationalité. C'est ça la réalité. Parce que si quelqu'un est en vie, il doit avoir une nationalité. Il peut y avoir seulement une erreur, peut-être qu'il a oublié sa nationalité, ou bien il a oublié sa date de naissance, mais si on le force, on le cherche, on doit le découvrir. Dans notre pays, s'il y a les apatrides, comment est-ce qu'on peut, nous ici, les détecter et les découvrir qu'en tout cas celui-ci, malgré nous sommes avec lui depuis longtemps, mais il n'est pas de la nationalité congolaise.
Comment les détecter? D'accord. Voilà. Merci Malonga. Ben, vous êtes à Kolwezi, dans le Lualaba. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question par rapport à l'apatridie?
Ma question, j'ai une question à poser à notre invité.
Oui.
Comment on peut avoir une carte d'identité à un enfant qui est à l'âge préscolaire?
Un enfant à l'âge préscolaire, comment peut-il obtenir une carte d'identité? Merci. Honorable Simon-Pierre Yananion, vous avez la parole.
Bah, merci beaucoup. Je remercie les compatriotes. Je commence par le dernier, justement, qui pose la question. Et ça, c'est pourquoi il faut en parler maintenant. Parce qu'au niveau du gouvernement, il y a un programme. Le gouvernement avait créé un service pour l'identification, ONIP. On doit identifier les Congolais. Mm. Le gouvernement vient de rendre public un programme en disant, en prévision des élections de 2023, il faudrait que le recensement de la population s'efface. Nous, politiquement, on s'est dit, si on y va sans avoir mis sur la table ces questions, notamment celle-ci de la patridie, on va avoir des problèmes. Parce que les recenseurs, quand ils vont arriver, ils vont s'appuyer sur la loi. Et la loi dit, tous ceux qui n'ont pas de certificat de naissance établissant leur nationalité, ils ne devraient pas être enregistrés comme Congolais. Alors, si les gens pensent qu'ils vont arriver, moi je suis né ici, ça fait 60 ans. Mmh. Oui, mais ça suffit pas. Parce que l'agent qui viendra, il va appliquer les principes qui lui seront donnés. Nous voulons justement que le pays dote chaque Congolais d'une carte d'identité. Mais est-ce que le fait d'être sur le territoire te donne automatiquement le droit à la carte? Non. Nous sommes dans une situation anormale, nous voulons en sortir. Alors là, Malonga, il dit, il ne connaît pas quelqu'un qui puisse être apatride.
Il dit, on est tous Congolais.
Non, c'est faux, mon ami.
Tous Congolais.
Et justement, moi, je prends des cas. Bon, on parle de l'apatridie juridique, de l'apatridie des faits, mais ici, dans ce pays, vous savez, nous avons 9 voisins, 9 États voisins. Et il y a eu, dans ces différents États-là, des gens qui sont venus, nous autres, nous avons envoyé dans ces... Mais supposons des gens qui sont chez nous depuis 30 ans. Leur pays avait donné une date limite, parce qu'il y a des conventions avec les hauts commissariats, c'est toujours la tripartite. Si tu es réfugié, à telle date, tu dois retourner dans ton pays. Dépasser cette date, le pays considère que tu n'es plus.
Tu n'es plus ressortissant des pays.
Et beaucoup de ces gens, ils sont restés ici. Et ils commencent à se dire qu'ils sont Congolais, mais ils ne sont pas Congolais. Ça, ce sont des apatrides, ça. Mais il faut que le gouvernement les identifie. On doit arrêter d'être un pays poubelle, où tout le monde vient, il entre, et tout d'un coup, il commence à dire que lui aussi est Congolais. Ça ne marche pas. Et il faut pour ça que la législation soit établie. Et c'est pour ça, moi, je vais me battre avec mes collègues de la Commission droits de l'homme pour que notre pays adhère aux conventions.
Absolument.
Nous ne pouvons pas être un État paria. Nous sommes connus pour être un État de viol, de guerre, mais nous devons aussi petit à petit nous redresser et devenir un État normal.
Mais vous savez, honorable, il est prévu d'éradiquer ces phénomènes d'apatridie d'ici 2024. On est déjà en 2021. Est-ce que on pourra atteindre les objectifs dans les délais qui nous restent?
Bon, c'est vrai que nous sommes un peu en retard. Vous savez, nous sommes un État, on nous appelle post-conflit. Mais en fait, la guerre n'est jamais terminée ici. Et c'est pour ça que je l'ai dit même à nos partenaires qui sont venus de Genève. Je dis, vous êtes en retard parce que le pays reçoit de Genève, des Nations Unies, des recommandations. Nous avons plus de 230 recommandations qui nous ont été faites depuis 2017 et nous sommes en retard. Mais ça ne justifie pas qu'on ne le fasse pas. Par rapport à cette question ici, notre pays étant membre de la CIRGL, il y a eu des engagements qui ont été pris au niveau de Brazzaville, au niveau de N'Djamena, je crois. Et l'État s'est engagé. Bon, maintenant, il y a un retard, mais il y a des effets qui commencent à être produits. Par exemple, le fait que nous ayons un comité interministériel, c'est quand même un acte d'engagement. Le fait qu'au niveau de la commission de l'Assemblée nationale, il y ait une commission droits de l'homme et que nous ayons des propositions de loi qui sont en cours ou des projets de loi qui sont en cours, nous pensons que nous pouvons rattraper ces retards. Mais il faut pour cela que ce soit une dynamique de tous les Congolais. Et c'est pour ça que des émissions comme celle-ci sont importantes.
Parce que certains peuvent penser, ah, on veut donner la nationalité aux étrangers.
Voilà, mais voilà, ça, justement, ça.
Les gens risquent de les prendre ainsi.
Il faut expliquer. Mais moi, je dis, nous devons savoir qui est gay. La catégorie de apatride est reconnue au niveau international. Nous devons aussi la reconnaître au niveau du Congo. C'est-à-dire, les réfugiés dans ces pays sont identifiés grâce au ACR. Ils ont un numéro et ils ont des droits. Les apatrides ne sont reconnus par personne, on ne les connaît même pas. Alors, tous ceux qui ne sont pas réfugiés, ils pensent qu'ils sont Congolais. Non, il y a des Congolais et il y a des apatrides. Maintenant, c'est à nous d'établir des mécanismes légaux et administratifs pour les identifier, leur donner un numéro et qu'ils aient aussi droit. Ils peuvent voyager, ils peuvent rester en justice, mais ils ne peuvent pas le faire normalement maintenant dans la légalité parce que le cadre légal n'existe pas.
Mmh. Il y a eu une question, M. Christian Makambo, de Safari Gabari, depuis Gabarière. Il dit, un enfant non enregistré, mais dont le père et la mère sont congolais, reconnus citoyens congolais. Est-ce que cet enfant-là n'est pas congolais?
Cet enfant est évidemment congolais. La question de nationalité est réglementée par la loi. Il y a la constitution qui en donne des principes généraux et une loi qui donne des détails, notamment par rapport aux critères d'attribution de la nationalité, d'acquisition, perte et recouvrement et consort. Un enfant né de parents...
Même s'il n'a pas été enregistré à l'état civil.
Un enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil, mais qui naît de parents congolais, et congolais, évidemment, et congolais d'origine, mais il est à risque d'apatridie aussi longtemps qu'il n'est pas encore enregistré. Monsieur le journaliste, c'est à travers l'enregistrement de la naissance à l'état civil que l'état prend acte de l'existence d'une personne. C'est l'enregistrement de l'état civil qui établit le lien sociologique entre un individu et ses parents, et entre un individu et l'État. Maintenant, en application de notre loi, l'article 7, si maintenant cet enfant n'est pas enregistré à l'état civil jusqu'à sa majorité, c'est là où maintenant le problème va se poser, parce qu'il sera apatride. Là, je reviens maintenant à la question de M. Malunga, parce que ça m'a beaucoup intéressé.
Comment détecter les apatrides?
Il a vraiment raison de dire que tous les Congolais, en fait, toutes les personnes sont censées avoir la nationalité. C'est ce qui ressort même de l'article 15. De la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais la réalité est tout autre. C'est pas tout le monde qui a la nationalité. C'est vrai, les Congolais, les millions de Congolais sont vraiment de la situation d'apatridie en vertu de l'article 7.
Mais on n'a pas encore le nombre exact.
On n'a pas. Parce que la cartographie.
Sur 80 millions de Congolais, bon, certains parlent déjà de 100 millions. Et on peut avoir combien des apatrides?
Bon, on peut pas, il n'y a pas de chiffre estimatif, parce que comme l'honorable l'a dit, il n'y a pas encore une loi précisant les mécanismes de détermination des apatrides en RDC. Alors, pour avoir cette loi, il faut d'abord adhérer aux conventions sur l'apatridie. C'est la raison pour laquelle nous comptons vraiment associer la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale pour qu'il nous accompagne dans cette lutte de doter la RDC d'un cadre protecteur et préventif de l'apatridie en RDC.
Et qu'est-ce qu'il faut pour que la RDC adhère à ces conventions honorables?
Oui, là, ça veut dire, dans le cadre de la continuité de l'État, nous assumons la responsabilité et c'est à ce titre-là que nous nous engageons. Mais nous ne savons pas pourquoi, depuis toutes ces années, la ratification n'a pas été faite. Mais il n'y a pas que ça, on est en retard dans beaucoup de textes. Mais présentement, le fait que le gouvernement ait créé les comités interministériels, ça a permis que les comités travaillent sur un projet de loi de ratification. Parce que comme il s'agit de la ratification, c'est le gouvernement qui doit présenter les projets. C'est pas une proposition de loi venant d'un député. Alors, c'est déjà fait. Le texte a été fait. Il a été transmis à la ministre de la Justice. Alors, nous essayons de travailler pour que, au niveau du ministère de la Justice, l'analyse soit sévère et que la loi soit transmise à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne savons pas quand est-ce que ça va être fait, mais nous voulons que tous les Congolais comprennent qu'il y a une dynamique de clarification des statuts. C'est pas un problème de donner la nationalité à tout le monde, mais il faut clarifier le statut de chaque citoyen, de chaque habitant. Si tu es étranger, tu arrives ici, la DGM doit t'identifier, tu as un numéro de résident. Tu peux être un résident permanent ou temporaire. Mais si tu es réfugié, c'est la même chose, on t'identifie. Si tu es Congolais, on t'identifie. Mais alors, ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, il faut aussi qu'on ait un mécanisme pour les identifier.
D'accord, on va accueillir deux auditeurs, Shadrach de Mbujimayi, Etienne nous appelle de Mahagi. Shadrach, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour à nos deux invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question, Shadrach?
Oui, merci. La première des questions, je voulais poser aux honorables. Est-ce que peut-on parler de l'apatridie lorsqu'il s'agit de choses ou par exemple une navire, ainsi de suite, qui me répondent un peu. La deuxième des questions, est-ce une personne qui a une double nationalité en République démocratique du Congo en vertu de l'article 10, est-ce cette personne-là peut être classée dans l'ordre des apatrides? Et aussi pour terminer, il se pose un peu un problème en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si le travail que les déshonorables ont en train d'abattre, si ça pourra achever à des résultats escomptés. Il se pose un peu un problème avec nos agents de la DGM ici. Autrefois, vous allez le constater vous-même, parce que vous voyagez aussi dans des aéroports, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas contrôlées. C'est comme s'ils sont exemptés, exonérés. Vous verrez que c'est de la plaisanterie. Il est là avec ses documents. Il y a quelques documents là qui manquent. Et parce qu'il y a deux billets, juste il fait comme s'il salue l'autre. Et le billet vert passe et la personne passe. Voilà un peu ce qui nous fait un peu du mal. Je ne sais pas ce que les déshonorables peuvent nous dire quant à ce jeudi et je vous remercie.
Bien, merci. Etienne Ademagui, bonjour.
Bonjour jeudi, bonjour à tous nos deux invités ainsi qu'à tous les invités du fréquence verte.
Quelle est votre question par rapport à l'apatridie?
Bon, monsieur le journaliste, moi je n'ai qu'une seule question et d'autres suggestions que je vais aussi soulever dans cette émission. Concernant le thème du jour, monsieur le journaliste, je vois que notre pays a un problème très sérieux. Ce problème, c'est la sensibilisation. Un constat que j'ai fait même ici à Mahdi, il y a presque 70% des populations ne sont pas enregistrées. Ils n'ont même pas des actes de naissance. Comme par exemple, moi je vous parle ici.
Vous également, vous n'avez aucun document.
Bon, j'ai maintenant 30 ans, mais je n'ai pas cette certificat-là de naissance. La cause, c'est quoi? Je vois que les Congolais ont un problème de l'ignorance de la loi. Parce que nos grands-parents, dans l'ancien temps, ils ne savaient pas ce que c'est un acte de naissance, ainsi de suite. C'est un problème qu'il fallait aussi sensibiliser tout le monde là, pour un peu mettre tout le monde à connaissance de cette loi. Parce que beaucoup ignorent cette matière-là de l'enregistrement des actes de naissance.
D'accord. Donc vous avez 30 ans et vous n'avez aucun document, pas d'acte de naissance, rien du tout. Donc il revient sur...
Oui, la faute, monsieur le journaliste, ne revient pas à moi, c'est l'ignorance. Et alors, je vais poser cette question à monsieur l'invité.
Oui.
Je demande à nos deux honorables, est-ce que c'est pas moyen de...
Non, il y a qu'un seul honorable ici.
Oui, monsieur l'honorable, est-ce que vous ne pouvez pas faire cette suggestion à l'État congolais de faire une carte d'identité valable à part les cartes d'électeurs ici? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire?
D'accord. Ngandou Christian, oui. Vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et bonjour à notre invité et à tous les secrétaires de Radio Okapi.
On vous écoute, Christian.
J'aimerais un peu poser la question à notre invité. Et s'il arrivait que nous sommes nés, et au moment de notre naissance, nos parents étaient vraiment en ignorance, ils ne savaient pas qu'il faudrait un certificat de naissance pour leurs enfants. Et arrivé à un certain âge que nous sommes déjà, et l'âge de 20 ans au plus, si on n'a pas de certificat de naissance. Et qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'on pourra faire nous aussi pour avoir les certificats de naissance aussi.
Bien, merci. Honorable Simon-Pierre,
oui,
qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Ben, je commence par Christian. C'est qu'il y a un mécanisme dans la loi qu'on appelle les jugements supplétifs. Donc, le législateur a compris que certaines personnes peuvent ne pas faire l'enregistrement à temps. Alors, il est prévu, dans ce cas-là des Christians, il faut aller devant les juges. Les parents amènent l'enfant. Ils le déclarent tardivement.
Dans les 3 mois après la naissance.
Ça, il y a la partie gratuite. Quand l'enfant est né,
les trois mois,
c'est enregistrement gratuit. Dépasser ça, il faut maintenant un jugement. Ça dit, ok, hein, je dis ça en lingala, oui. Ok, pas Zouzi, omi fundi yo moko.
Et puis au futi pako.
Tu t'accuses de n'avoir pas fait ton devoir, et le juge prend acte de ton pardon que tu demandes, mais il t'inflige une amende. C'est pour ça que nous demandons à beaucoup de parents de le faire à temps, parce qu'il y a 3 mois, 90 jours. Maintenant, ce que nous essayons de faire, et j'en profite ici pour dire, beaucoup de gens pensent que les députés, ils sont là seulement pour dire qu'ils sont pour, qu'ils sont contre. Non, nous travaillons en commission. Le travail des députés se fait dans les commissions. Nous en avons 10. La commission droits de l'homme s'occupe de toutes ces questions de droits de l'homme. Nous voulons travailler avec nos amis, nos partenaires, notamment de l'UNICEF, pour voir comment nous pouvons informatiser. Il faut que la loi soit modifiée pour ça. C'est pour ça qu'il y a un collègue député.
Informatiser l'enregistrement
de la population dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, comment ça fonctionne aujourd'hui?
Oui.
À la naissance, quand l'enfant est né, on l'enregistre et on lui attribue un numéro national. Un seul numéro. Et c'est ce numéro-là qui est la référence pour tous les autres services. Jusqu'à sa mort. Au point que le jour du décès, quand on établit l'acte de décès, on reprend ce numéro-là, on le désactive.
Ok, non, on ne l'attribue pas à quelqu'un d'autre.
Non, on désactive.
On désactive tout de
suite. Oui, okay. Maintenant, lui, il est, à la naissance, on lui attribue un numéro. Il veut aller à l'école, l'école exige ce numéro-là. Il veut avoir une carte à la banque, il veut ouvrir un compte, la banque exige ce numéro. Il veut faire n'importe quoi, il veut acheter une voiture, il veut acheter une maison. Tout le monde doit se référer à ce numéro. Pour ce faire, il faut que les différents registres se parlent. Le problème de ce pays, c'est celui-là. Ça veut dire, la DGM enregistre, parce qu'il y a un qui parle ici de la DGM. Mm. L'ANER enregistre. Vous savez qu'à l'ANER, il y a le registre qu'on appelle là des casiers judiciaires. Casier judiciaire, ça veut dire quoi? Si tu as été condamné pour vol, pour meurtre, il faut que l'État enregistre ces faits-là. Et normalement, pour être engagé quelque part, on va te dire, il faut produire un excès du casier judiciaire.
Oui, on doit vérifier.
On doit aussi... le vérifier. Oui. Comme on n'a pas ce numéro unique, aujourd'hui c'est compliqué. Les gens achètent des documents. Beaucoup de ces documents-là sont faux. Alors, nous travaillons sur ça. Il faut modifier les codes de la famille quelque part par rapport à la question de l'enregistrement. Mais il faut l'actualiser aussi petit à petit de sorte qu'on arrive à ce que tous nos registres se parlent.
Et même que... la loi sur la nationalité doit être revue.
Oui, normalement. Elle doit être revue. Mais il faut que pour ça, on puisse faire un travail d'analyse. Pourquoi nous voulons réviser tel article? Qu'est-ce que nous, comme peuple, nous y gagnons? Et si on dit nous ne voulons pas modifier, pourquoi? Il faut toujours que l'État puisse gagner. Le peuple congolais doit gagner. Malheureusement, si on ne réfléchit pas bien, c'est ça que disent les compatriotes ici. On est dans l'ignorance, hein. C'est lui de Mahag qui dit ça.
Bon. Il a 30 ans et il s'étonne.
Il s'étonne, mais il dit c'est la responsabilité de l'État. Non! Dans la loi, il est prévu. Bon, moi, je parle au nom des législateurs. Nul n'est censé ignorer la loi. Malheureusement.
Voilà. Monsieur Christian, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Ce que je peux dire, c'est que les auditeurs comprennent au fur et à mesure de la gravité de la situation que traverse notre pays en lien avec la patrie. J'ai eu pitié, j'ai même failli pleurer quand j'ai entendu monsieur...
Ce compatriote Étienne Demag
à dire qu'il a 30 ans, il n'a pas d'acte de naissance. Et je suppose que quand il a entendu que... C'est lui qui n'est pas enregistré à l'état civil au-delà de la minorité.
Il est
déjà apatride.
Je crois qu'il est inquiet.
Il est très inquiet. Il a raison d'être inquiet. C'est là où le comité insiste et nous n'allons pas arrêter d'insister sur la mise en œuvre des engagements que la RDC a pris pour éradiquer ces fléaux, qui est une réalité en RDC, qui victimise des millions de Congolais. Le cas de monsieur Demagui et légion en RDC. Beaucoup de Congolais sont dans ces situations-là. C'est pourquoi il faut adhérer aux conventions sur la patrie. Il faut réformer notre cadre légal sur la nationalité. Il faut améliorer notre système de gestion de l'état civil. J'en reviens au niveau de la responsabilité sur ces questions. C'est vrai, l'État congolais est aussi responsable parce qu'il lui revient de bien organiser le système d'état civil. Notre système d'état civil congolais a été classé insatisfaisant dans la typologie des systèmes d'état civil en Afrique. Ça veut dire que notre système d'état civil ne garantit pas l'identité juridique pour tous les Congolais. Tous les Congolais ne sont pas en mesure d'éprouver d'abord qu'ils existent et qu'ils sont Congolais. Notre système d'état civil ne remplit pas la fonction statistique, c'est-à-dire ne donne pas au gouvernement les données statistiques, démographiques, qualitatives et quantitatives qu'il faut, fiables, pour lui permettre de rationaliser sa gouvernance. C'est là où j'ai rejoint le président de la commission des droits de l'homme du Parlement pour dire que notre système d'état civil doit être réformé, doit être modernisé. Ça veut dire doit être dématérialisé.
Informatisé même.
Doit être informatisé. Voyez-vous, il y a des questions de sensibilisation qui se posent. Les comités travaillent sur la prévention de l'apatridie. D'ailleurs, je vous informe, les projets que le CTLA met en œuvre depuis 2019, en partenariat avec le HCR, s'intitule Prévention de l'apatridie en RDC. Dit prévention, dit la sensibilisation.
Alors, il faut intensifier la sensibilisation à travers le pays.
Évidemment, d'ailleurs, je vous informe que 10 provinces en RDC actuellement sont dotées des feuilles de route provinciales pour l'éradication de l'apatridie. Dernièrement, j'étais en Ituri. J'ai même rencontré les autorités militaires de l'Ituri. Je leur ai fait comprendre que la question de l'identification, la question de l'état civil est liée à la question de la sécurité. Pour sécuriser la population, il faut connaître sa population.
Il faut connaître, bien sûr. On va accueillir, s'il vous plaît, Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour, Roger.
Bonjour, Jody, et bonjour à nos auditeurs.
Oui, quelle est votre question, Roger?
Ouais, merci beaucoup pour les thématiques du jour. Moi, je serais vraiment plus bref. Il y a une amie qui a parlé de la sensibilisation des gens. Je pense que l'État congolais, qui se fait là, vraiment, il faut beaucoup travailler. Parce que si on pouvait passer directement, avant de faire quelque chose et qu'on sensibilise la population, ça pouvait aider nos mamans aussi, nos parents, pour que dès qu'il y a naissance, que les enfants soient directement enregistrés ou bien selon les délais que l'État congolais a accordés. Moi, je voudrais dire qu'on pouvait même mettre l'état civil au niveau des hôpitaux, même au niveau des centres de santé. Lorsque la maman donne naissance, l'enfant on peut enregistrer l'enfant directement au lieu d'attendre encore après 3 mois ou bien quelques jours pour que l'enfant soit enregistré.
D'accord. Vous proposez que le service de l'état civil soit rapproché, qu'il y ait même des bureaux au niveau de... Je sais qu'à l'époque, ça existait. L'honorable va revenir là-dessus tout à l'heure. Le temps d'accueillir Bayende depuis Kikwit. Bonjour.
Et bonjour, monsieur G. Ce n'est pas Bayende, c'est Eric Chabani depuis la ville de Kikwit.
Ah, c'est plutôt Eric Chabani. On vous écoute, Eric.
Ok, merci beaucoup, JR. Je salue aussi l'invité.
Non, c'est pas JR aussi, c'est Jody.
Ok, j'ai dit merci beaucoup.
Allez-y.
Ok, mon problème est celle-ci. Je suis allé enregistrer ma fille. Elle est née le 22 juin. Mm-hmm. Maintenant, après 2 semaines, je suis allé déclarer l'acte de naissance.
Déclarer la naissance, oui.
Ok, la naissance à la commune. Et puis, je suis allé là, on m'a recevoir. Et puis, j'ai fait aussi le démarche, tout ça. Après presque 2 semaines, je suis passé encore là pour retirer l'acte de naissance. Maintenant, pour le grand frère, maintenant je suis là-bas, on me dit, il y a beaucoup d'histoires, non, il faut passer au niveau de la justice, tout ça. J'ai vu ça, c'est bon, mais dès que vous arrivez là-bas, on vous juge de 300, 400 dollars, vous passez d'abord à la justice, au parquet, ils vous demandent les 400, vous payez là-bas, et puis on vous renvoie à l'état civil, le gouvernement, c'est là, on lui juge 200 dollars, 250, donc...
La procédure est compliquée, quoi.
C'est très coupable. C'est très coupable. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un montant, que ma question est qu'il n'y a pas un montant fixé pour que nous puissions payer et faire la déclaration des actes de naissance.
Bien, merci, Eric de Kikwit. Claudia, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Bonjour, honorable.
Bonjour, madame.
Et ma préoccupation est la suivante. Et si les parents ont été assez négligents pour ne pas faire enregistrer leurs enfants 3 mois après la naissance, alors que l'enregistrement était gratuit, comment peuvent-ils le faire s'il y a une amende? Je vous demande seulement de supprimer ou d'annuler cette amende et de faciliter l'enregistrement. Parce que s'ils vont passer par beaucoup de démarches, aller au tribunal, je vous assure qu'ils ne le feront pas et on aura beaucoup d'enfants encore non enregistrés. Il faut vraiment supprimer ces démarches-là, ces amendes, tout ça, il faut les supprimer.
Sinon, ça va décourager les parents.
Oui, ils ne vont pas le faire vraiment. S'il faut amener de l'argent, faire des démarches, aller au tribunal, tout ça, ils ne le feront pas vraiment. Et on aura beaucoup d'enfants non enregistrés.
D'accord, merci. Honorable Simon-Pierre.
Oui. Merci. Bon, c'est justement pour ça qu'il y a un travail législatif qui doit être fait par rapport à la réforme, parce que ça ne dépend pas de celui qui est sur le terrain. Hein. Je réponds aux deux en même temps. Donc, la loi prévoit une amende. Et pour justement qu'on puisse favoriser, comme fait madame a fait la proposition, il faut modifier la loi. Et c'est pour ça que nous, à l'Assemblée, nous avons la responsabilité, législative de modifier la loi, mettre à la disposition du gouvernement un cadre légal. Deuxième étape, maintenant, c'est le contrôle. Parce que nous, comme députés, nous devons voter la loi, mais nous devons aussi nous assurer que la loi est réellement respectée. Et c'est à ce niveau-là que je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui abusent. Le montant qui est fixé dans la loi n'est pas toujours celui que
les
gens demandent. Mais ça, c'est la responsabilité. Il faut que les compatriotes dénoncent.
Oui.
Maintenant, vous savez que vous avez votre commission permanente des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Lisez la loi. Que dit la loi? Et si la loi qui vous donne vos droits est abusée ou violée par un agent, il ne faut pas rester là à pleurnicher. Non, ce pays est à vous. Vous êtes un Congolais. Saisissez les autorités locales ou alors contactez la Commission permanente des droits de l'homme pour que nous puissions poser la question au gouvernement. Pourquoi monsieur tel qui a tel endroit dans l'administration fait ce que la loi ne dit pas? Alors moi je pense que l'essentiel que tout le monde pense à la sensibilisation. Mmh. Ceux qui suivent l'émission déjà, il faut que dans leur maison, dans leur quartier ou dans leurs associations, ils en parlent. Parce que ce sont des questions extrêmement grave. Imaginez, vous avez 30 ans et un jour on vient vous dire vous n'êtes pas congolais.
Vous n'êtes pas congolais.
Ben, mais c'est le monde qui va s'écrouler.
Mmh.
Et là, c'est ça. C'est, ce sont des raisons de conflits potentiels. C'est pourquoi moi, comme
la président, sensibilisation commence d'abord par les honorables députés.
Non,
lors de l'atelier qui aura lieu.
Oui, la sensibilisation a déjà commencé avec l'émission ici.
D'accord.
Parce que les députés sont l'émanation du peuple.
Mmh.
Il faut que la base, parce que vous savez, je vais être honnête avec tout le monde. Nous, comme députés, comme politiques, nous observons l'opinion. Toi, tu es élu d'un peuple, tu peux pas t'opposer à ce peuple-là. Alors, si ton peuple ne comprend pas bien la question, beaucoup de députés hésitent parce qu'ils ont peur de se mettre à contre faux par rapport à leur opinion.
Leur base, oui.
Oui, et c'est pour ça qu'il est important que la base comprenne qu'il y a un problème sérieux à ce niveau-là et que dans chaque circonscription, les gens commencent à dire à leurs députés, attendez, mais est-ce que vous savez que nous avons le risque d'apatridie ici? Et comme ça, les députés, quand la commission va sensibiliser avec les partenaires, nous y travaillons suffisamment. On vous dit que nous avons une première activité du 19 au 20 octobre. Et ça va se passer à l'Assemblée nationale, dans la salle des banquets. L'Assemblée nationale, les ministères de la Justice, tous les partenaires, que ce soit les bureaux de liaison avec le Parlement de la CENCO, les ACR, les comités techniques, et même la présidence de la République, tous nous voulons passer ces deux journées à prendre connaissance d'abord des recommandations qui ont été faites à notre pays et deux, comment mettre en place une feuille de route nationale qui pourrait permettre qu'on se dise bon, nous faisons des cibles et nous nous donnons un chronogramme pour atteindre ces cibles, évidemment par rapport à l'obligation de 2024.
Et la modification de la loi doit aussi intervenir
évidemment, parce que là nous sommes dans une session budgétaire. Mais entre temps, bon, nous avons quand même inscrit au calendrier de cette session ici, cette loi-là qu'il faut afficher maintenant à l'ordre du jour d'une plénière. Et nous, comme Commission des droits de l'homme, nous essayons de sensibiliser le bureau de l'Assemblée nationale pour que la question de la révision de cet état civil puisse être abordée rapidement. Mais c'est une session budgétaire et il y a beaucoup de risques que ça ne se fasse pas maintenant. Mais il faut qu'en mars, dès qu'on rentre au moins, qu'on aborde la question.
Monsieur Christian, alors pour terminer, quelles sont vos attentes à l'issue de cette sensibilisation des honorables au cours de cet atelier? Quelles sont les attentes de votre structure?
Alors notre structure, le CTLA, attend beaucoup de cet atelier. D'abord, c'est que les politiques s'approprient de questions de la lutte contre la patrie. Je suis très content qu'à travers cette émission, les auditeurs ont compris qu'il n'y a rien de passionnant dans cette question de nationalité, qu'on doit aborder de manière directe et frontale. Il n'y a pas d'agenda caché. Ils ont compris que la responsabilité nous revient d'abord à l'État congolais pour mieux organiser l'État, c'est-à-dire le cadre légal sur la nationalité, la gestion de l'État civil, mais aussi aux administrés d'enregistrer les enfants de l'État civil, de se mettre en ordre par rapport à la loi, d'obtenir les seuls documents qui attestent la nationalité congolaise, qui est le certificat de nationalité, pour prouver que l'on est congolais. Mais alors, qu'est-ce que le comité attend précisément et clairement de cet atelier qui aura lieu du 19 au 20 à la salle de banquiers au Parlement? c'est que les politiques d'abord s'approprient les questions de la patrie, aussi réfléchissent sur une approche appropriée et efficace qui permettra à la RDC d'adhérer rapidement aux conventions sur la patrie. C'est très important. Mais aussi, ça c'est même un objectif primordial, c'est que cette atelier doit accoucher d'un plan d'action national de lutte contre la patrie qui va prévoir des actions concrètes que l'État congolais doit entreprendre pour éradiquer ces fléaux à l'horizon 2024. Mais je veux aussi insister, s'il vous plaît, sur l'enregistrement des naissances à l'état civil. C'est très, très, très important. Le délai de 90 jours est suffisant. Les mâles avec les Congolais, ils attendent les derniers jours pour enregistrer les naissances.
Quelqu'un a proposé, pourquoi ne pas placer dans les hôpitaux les équipes de l'état civil, comme ça, dès qu'il y a une naissance, immédiatement, on enregistre le bébé.
Justement, c'est là où il est important de réformer notre loi sur notre code de la famille, sur les dispositions concernant l'état civil. Mais aussi, je voudrais aussi ici en profiter pour interpeller les gouverneurs. La loi leur a donné la possibilité de faire créer des bureaux secondaires de l'état civil. Mais ils ne les font pas. Et pourtant, ils sont conscients qu'il y a déficit des bureaux d'état civil dans leurs circonscriptions respectives.
On aura l'occasion de revenir sur cette question prochainement. Merci, honorable Simon-Pierre Iannanio Moligui, député national et président de la Commission droits de l'homme du Parlement. Merci également à Monsieur Christian Makambo, chargé des opérations et protection au comité technique de lutte contre l'apatridie. Excellente journée.
Merci.
Merci. Beaucoup. Merci.